Mondial Sport sur RFI.
Hugo Moissonnier.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Mondial Sport, le ballon rond à la une, Coupe du Roi, Coupe d'Afrique, Coupe du Monde des moins de 20 ans, la coupe est pleine. Nous prendrons donc aussi le temps de nous poser, d'écouter le nouveau sélectionneur des Panthères du Gabon, Patrice Neveu, et puis surtout Éric Chorin viendra nous parler de l'équipe de France féminine qui prépare son mondial. Le football, mais également le tennis. Au sommaire, les stars sont à Paris, et oui, Roland Garros débute demain. Mais d'abord, le ballon rond et une sensation fin de saison terrible pour le Barça qui vient de perdre la finale de la Coupe du Roi. Coup de fil express à notre correspondant dans la cité catalane, François David. Bonsoir François.
Bonsoir Hugo, bonsoir à tous.
Messi et ses camarades battus par Valence ce soir à Séville.
Ouais, bah une finale de Coupe du Roi, une victoire totalement méritée pour Valence, surtout en première mi-temps, hein, où les partenaires de Kevin Gamero en ont fait voir de toutes les couleurs aujourd'hui Barça, avec un plan de jeu de contre-attaque parfaitement appliqué, et surtout Hugo, beaucoup plus d'envie, beaucoup plus d'enthousiasme que ce Barça-là, totalement traumatisé, hein, toujours, suite à sa défaite contre Manchester, contre Liverpool en Ligue des Champions. Alors ça s'est concrétisé par deux buts en première période, Gamero, le premier, trois buts cette saison en Coupe du Roi, et l'avant-centre international espagnol, Rodrigo Moreno, cinq buts et meilleur buteur de la compétition, alors contre Barça, sans Dembélé, sans Suarez, sans Vidal, laissé sur le banc avec un système de jeu conservateur, où seuls Coutinho et Lionel Messi sont chargés de créer le danger. Eh bien, le Barça a plongé en première mi-temps avant de relever un petit peu la tête en deuxième mi-temps. Mais finalement, Messi était tellement seul, encore une fois. Finale logiquement perdue par le Barça qui avait remporté les quatre dernières éditions de la Coupe du Roi, qui ne fera pas donc la passe de 5.
Messi, seul buteur catalan ce soir. Défaite 2-1 donc du Barça. Après la déroute en Ligue des Champions, ça nous donne une Liga. Et puis c'est tout, constat d'échec hein, pour le Barça.
Ah bah c'est un bilan forcément décevant, Hugo, hein, vous l'avez dit, un seul titre, le championnat d'Espagne, le Barça qui voulait faire le triplé, mais finalement non, le Barça qui voulait faire le doublé, finalement non, et le Barça surtout, Hugo, qui s'est écroulé mentalement en cette fin de saison et qui dit au revoir à la saison 2018-2019 par la toute petite porte. Alors il est 23h33 et Ernesto Valverde n'a toujours pas démissionné, cela pourra arriver ce soir. Mais il est clair que cette équipe a besoin vraiment d'un électrochoc. Alors Valverde devrait partir après les déroutes en Champions League et en Coupe du Roi. Et quant aux arrivées, bah Barcelone qui a signé déjà Frankie de Jong, le joueur hollandais de l'Ajax, devrait accélérer sur les dossiers De Ligt et Antoine Griezmann pour calmer les supporters Blaugrana, forcément très déçus ce soir.
François David, correspondant de RFI à Barcelone, sachez qu'en Allemagne, le Bayern Munich a eu la bonne idée de gagner sa Coupe nationale 3-0 face à Leipzig et donc de réaliser le doublé. En France, la dernière journée de Ligue 1 était à suivre hier et le dernier enjeu, c'était la lutte pour le maintien. Un géant de la Ligue 1 a eu chaud, Monaco, champion de France 2017, qui s'est sauvé malgré une nouvelle défaite chez le voisin niçois 2-0. On file justement dans le sud de la France, retrouver Stéphane Burgade. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Hugo, bonsoir à tous.
Monaco a survécu, mais Monaco vient d'achever clairement une saison en enfer.
Oh là là, jusqu'au bout, et finalement ça a été à qui perd gagne pour cette toute dernière journée, ce tout dernier match. Défaite, tiens, encore une fois, face aux voisins niçois, mais les hommes de Léo Jardim ont assuré l'essentiel, ce billet pour rester la saison prochaine parmi l'élite. Et de justesse, vraiment, ils terminent 17e à deux petits points à peine de la place du barragiste. Vraiment impensable pour ce club qui joue auparavant le podium, voire même le titre, hein, tout simplement. Monaco, qui était un exemple jusque-là de business model avec son flux chaque saison d'achat, de revente de joueurs prometteurs. On pense à Bernardo Silva, quitte à chambouler son équipe à s'en remettre au sorcier Léo Jardim. Sauf qu'il y a quand même, Hugo, une limite à la magie. Et on a eu le mérite de s'en rendre compte du côté de la direction monégasque avec ce cas d'école, le coach Jardim viré, puis réembauché dans la même saison pour sauver le club. Mission accomplie à ce jour.
Et maintenant, sur le rocher, Stéphane.
Alors maintenant, énorme chantier, énorme chantier. Le mercato, voilà, va être animé, ça c'est certain. Léo Jardim l'a bien synthétisé, il y aura du mouvement, oui, mais surtout dans le sens des départs. Il y a 72 contrats pro à Monaco, c'est trop, c'est beaucoup trop. Énorme défi en perspective.
L'autre feuilleton du sud de la France, Stéphane Burgade, ça se passe un peu plus près de chez vous, c'est celui de l'Olympique de Marseille.
et c'est plus animé. Le ton est vraiment monté cette saison du côté du Vélodrome. Les supporters marseillais qui ne supportaient pas de passer d'une finale de Ligue Europa à une saison irrégulière et décevante vraiment en tout point, puisque l'OM qui visait clairement le podium cette saison n'y est pas, et Marseille ne jouera d'ailleurs pas la moindre Coupe d'Europe la saison prochaine. Le patron Franck Maincourt est déçu, il l'a fait savoir par voix de presse, d'autant qu'il a été raillé par le public avec cette banderole. Voir, you get scammed, tu t'es fait arnaquer en reprenant ce club, voilà le message. Ces mêmes supporters qui ont eu le scalp de l'entraîneur Rudy Garcia, son successeur n'est pas connu, on le guette vraiment, mais on parle beaucoup ici, c'est la rumeur qui revient avec insistance, Hugo, l'Argentin, Gabien 2, qui a fait quelques belles heures ici à Marseille.
Stéphane Burgat, merci, correspondant de RFI à Marseille. Je vais vous parler du maintien en Ligue 1. Caen accompagnera Guingamp en Ligue 2, alors que Dijon peut encore se sauver sa place au sein de l'élite à la faveur d'un barrage contre Lens. Le football féminin à présent, France-Thaïlande, c'était l'avant-dernière sortie des Bleus UES avant leur entrée dans leur Coupe du Monde. Ce sera face à la Corée du Sud le 7 juin prochain à Paris. Bonsoir Eric Chorin.
Bonsoir Hugo.
Alors, un match face à Thaïlande donc pour l'équipe de France aujourd'hui qui s'est conclu par une victoire 3-0 devant un stade plein et enthousiaste, c'était du côté d'Orléans. Le match, en revanche, il a été beaucoup moins enthousiasmant.
Oui, Hugo, presque un match d'entraînement avait prévenu Corinne Diacre cette semaine et la sélectionneur tricolore n'a pas été démentie face à de bien modestes Thaïlandaises. Les Bleus à court de forme au sortir d'une grosse préparation physique, il est vrai, n'ont pas brillé non plus par leur justesse technique, d'où une première mi-temps sans but, malgré une domination sans partage et une Viviane Asseyi qui a surnagé en tentant trois reprises de volée acrobatique, la dernière s'écrasant sur la transversale, mais le sang frais aidant, les Thaïlandaises ont cédé en deuxième période et les Bleus ont marqué trois fois, un doublé de l'opportuniste Kadidiatou Diani et une belle frappe de la doyenne du groupe à l'heure de jeu, je parle d'Élise Busaglia.
Oui, c'est un match qui s'inscrit dans notre préparation, donc c'est vrai que c'était pas un match facile pour nous, avec un petit peu les jambes lourdes avec du turnover, mais en même temps on a l'habitude de travailler ensemble, donc ça c'est pas une excuse, mais voilà, on savait que ça allait être un match difficile. On a eu des difficultés, on s'est pas rendu la tâche facile, mais en tout cas on a gagné, donc c'est ce qui prime.
Et elles ont gagné sans les Lyonnaises sur la pelouse. Six d'entre elles n'ayant pas joué une seule minute quelques jours après leur sacre en Ligue des Champions. Eugénie Le Sommer était même forfait, d'où un manque de coordination souligné par Élise Busaglia, mais du temps de jeu pour leur doublure en bleu, parmi lesquelles les Parisiennes, Kadidiani, on l'a dit, et Grâce Gueyoro, c'est votre chouchoute, entrée en jeu en même temps.
Les Lyonnaises ont un petit peu été soulagées parce qu'elles viennent aussi d'une grande compétition. On savait qu'il fallait aussi un petit peu les reposer. Voilà, la coach nous a dit qu'on allait jouer, qu'on allait rentrer, il fallait aussi continuer à se montrer. On sait qu'on forme une seule équipe les 23, mais peu importe le 11 de départ, on sait qu'on va tout donner les unes pour les autres. Ouais. Bah, on a essayé d'être présente, c'est vrai, on a essayé d'apporter le maximum. Je suis rentrée en même temps que Kadidiatou, on a essayé d'apporter un peu de dynamisme aussi, et c'est ce qu'on a réussi à faire.
Un peu de dynamisme dans une équipe qui cherche son souffle, Hugo, on espère qu'elle l'aura retrouvé hein, pour un dernier test vendredi prochain face à la Chine avant le match d'ouverture du Mondial contre la Corée du Sud le 7 juin. J'ai le temps d'aller manger une petite salade thaï, moi.
Allez-y, ouais. Mais ne révélez pas les secrets du service des sports, s'il vous plaît. On va avoir tous des soucis. merci, Eric Chorin. Je laisse la place. Vous allez plutôt laisser votre place à Antoine Grenier. Lui, il est plus, il joue plus davantage le collectif. Bonsoir, Antoine.
Bonsoir, Hugo. Bonsoir, tout le monde.
L'africaniste du soir. Après les hommes, après les femmes, les enfants, si je puis dire, en Pologne. Et un et deux, mais pas trois victoires de suite pour le continent africain à l'occasion de la Coupe du Monde des moins de 20 ans, puisque le Mali a buté sur le Panama à l'occasion de son entrée en lice.
Oui, contrairement au Sénégal et au Nigeria qui avaient dominé leur sujet, les Maliens ont dû se contenter d'un nul, un partout face au Panama. Les Aiglons avaient pourtant bien entamé la rencontre. 39e minute, Boubacar Konté frappe des 25 mètres, tir croisé, poteau rentrant, 1-0, c'est simple le foot. Le Mali a bien failli s'imposer mais s'est fait reprendre sur un pénalty litigieux. Alors pas pour la faute, hein, elle est très nette, mais elle a été commise juste en dehors de la surface. Valenta, la 87e, n'a pas raté l'occasion de revenir à un partout. Les Maliens désormais deuxième ex aequo avec le Panama, donc de leur groupe E, derrière la France qui a largement dominé l'Arabie Saoudite 2-0. Les Saoudiens, prochains adversaires du Mali. Dans le groupe F, l'Afrique du Sud, elle s'est effondrée contre l'Argentine Pourtant, pendant 45 minutes, les Sud-Africains avaient fait jeu égal avec les Argentins. Keenan Phillips avait même égalisé à un partout en première période, mais c'était avant de se faire exclure à la 65e, alors que son équipe était déjà menée 2-1. Le début de la fin pour les joueurs de Thabo Senong qui se sont inclinés 5-2 et figurent donc ce soir à la dernière place du groupe F dans lequel le Portugal a battu la Corée du Sud.
Vous parliez du Sénégal, Antoine. Le Sénégal qui a disputé le match d'ouverture de cette Coupe du Monde des moins de 20 ans jeudi dernier. Victoire facile 3-0 face à Tahiti. Tahiti, le tout petit poussé de cette compétition que nous fait découvrir Thomas Giraudot pour RFI.
L'émotion submerge les jeunes Tahitiens quand résonne leur hymne à Lublin au sud-est de la Pologne à 16 000 km de leur île. Pas encore dans leur match, les joueurs encaissent un premier but après seulement 9 secondes de jeu, un record pour un mondial des moins de 20 ans. Sur le banc, l'entraîneur Bruno Teamoana tente de remobiliser son équipe sans succès.
C'est ce but à 9 secondes du début du match qui nous a coupé les jambes. Prendre vite un but comme ça très tôt et devant une belle équipe du Sénégal. Après, ça a été difficile, on a lutté, on a couru à gauche et à droite. Et bon, je pense que le résultat, il est mérité. On pouvait prendre aussi vers la fin 3 autres ou 4 autres buts, mais bon voilà, on va pas faire la fine bouche. Il faudra qu'on rectifie certaines choses. Et c'est le football de haut niveau, il est là. C'est peut-être un niveau aussi qui était un peu trop élevé pour mes joueurs.
Les jeunes Tahitiens sont pour la plupart amateurs. 3 joueurs sont au centre de formation de Toulouse et de Saint-Etienne. Les autres évoluent dans des clubs amateurs français ou dans le championnat de Tahiti. Le fossé est donc colossal avec des équipes de professionnels comme leur adversaire sénégalais. Et pourtant, le milieu de terrain, Diego Araneda, 18 ans, ne voit rien d'insurmontable.
On n'a pas eu de chance, on s'est pas vite mis dans le match. Oui, il y a eu de petits problèmes d'inattention. C'est à ces moments-là où ils ont su concrétiser, ils ont su faire ce qu'il fallait faire. Après, ils n'étaient pas à un niveau au-dessus, tu vois. Ils n'étaient pas plus forts que nous. Je pense que c'est plus tactiquement. Après, physiquement, on n'est pas si loin. Sinon, c'est rien de surnaturel, quoi. Je pense qu'avec du boulot, on peut réussir.
L'objectif, c'est d'abord de marquer un premier but lors d'un mondial des moins de 20 ans. En 2009, pour sa première et unique participation jusque-là, Tahiti avait encaissé 21 buts en 3 matchs sans jamais faire trembler les cages adverses. Olivier Huc, de la Fédération Tahitienne de Football.
On a des jeunes qui rêvent de faire une carrière professionnelle pour certains, mais on n'a pas forcément les infrastructures. Petite anecdote, lors de la visite du stade, les joueurs étaient émerveillés de voir la pelouse, de voir un sauna dans les vestiaires. C'est des choses qu'on ne connaît pas à Tahiti. Et simplement pour notre sélection, par exemple, faire une préparation digne de ce nom, c'est très difficile. Rencontrer une équipe quand on est en Europe, on fait un match, le week-end d'après, on a un match. Nous, chez nous, on doit prendre l'avion, dépenser des tonnes d'argent. Pour une petite fédé amateur, c'est juste pas possible.
Les Tahitiens partent avec plusieurs longueurs de retard. Il leur reste 2 matchs contre le pays hôte, la Pologne, puis contre la Colombie. Pour prendre de l'expérience, jouer leur chance et pourquoi pas se qualifier pour les 8e de finale. En plus des 2 premiers de chaque poule, les 4 meilleurs 3e valident leur billet pour le prochain tour. Thomas Giraudot, Lublin, RFI.
Du football africain en Afrique, dans Mondial Sport, toujours avec Antoine Grenier. C'était un choc des champions. Les 2 derniers vainqueurs de la C1 africaine s'affrontaient hier soir lors de la finale aller. Ambiance délétère, match haché, tous les ingrédients étaient là pour faire monter la sauce, Antoine.
Et on se dit heureusement que la rencontre s'est déroulée à Rabat plutôt qu'à Casablanca. Le stade du Wydad est en travaux. L'enceinte dans laquelle le WAC a reçu l'Espérance de Tunis n'était donc pas celle dans laquelle il évolue habituellement, mais on a eu droit à des fumigènes craqués dès les premières minutes, des accrochages entre joueurs suite au contact rugueux qu'ils se sont infligés. Bref, une finale aller entre le vainqueur 2017 et le tenant du titre, qui aura surtout été indécise, s'achevant sur un match nul, un partout à Nassiassine.
En principe, un score d'un but partout à l'extérieur est considéré comme un bon résultat. Mais l'Espérance de Tunis risque de regretter l'issue de cette finale hachée. La formation tunisienne a mené au score juste avant la pause, à la suite d'une balle arrêtée. La défense du WAC a laissé les Tunisiens faire la loi dans la surface de réparation. Un ballon remis de la tête par le défenseur Dawadi et le milieu de terrain ivoirien Fosséni Koulibaly a réussi à faire trembler les filets. 1-0 à la mi-temps. Juste après la reprise, l'équipe marocaine a perdu son capitaine Nekash, exclu pour cumul d'avertissements. Et quelques minutes plus tard, le leader du championnat marocain a réclamé un pénalty pour une main selon les Casablancais. Là aussi, l'arbitre égyptien a consulté la vidéo et a décidé de poursuivre le jeu à la grande déception des joueurs et supporters marocains furieux contre l'égyptien Grisha. Et à 12 minutes de la fin, l'OAC a rétabli l'équilibre. Même scénario, une balle arrêtée et un buteur ivoirien, le défenseur central du Wydad, Cheikh Camara. Un partout, plusieurs joueurs avertis des deux côtés seront suspendus pour le match retour qui reste ouvert, même si l'Espérance est mieux placée pour conserver son trophée. Anas Yassine, Araba pour RFI.
Espérance de Tunis, Wydad Casablanca, la finale retour, c'est la semaine prochaine.
Coupe d'Afrique toujours, duel d'Afrique du Nord encore. Antoine Grenier, on passe à la Coupe de la Confédération, puisque demain, le Zamalek du Caire et la Renaissance de Berkane se retrouvent 6 jours après la courte victoire des Marocains.
1-0, but du Togolais Kodjo là-bas en toute fin de rencontre. De quoi mettre la Renaissance de Berkane en bonne position pour s'offrir un premier titre continental. Dans cette perspective, Fouzi Legja, président de la Fédération marocaine et également de la Renaissance de Berkane, a été très présent aux entraînements de la semaine. Des Berkanis qui découvriront l'ambiance du stade du Zamalek face à une équipe qui rote en quête de son premier titre, mais pas continental. Déjà 5 Ligues des Champions au palmarès des Amalkaouis, mais pas de Coupe de la Confédération à noter pour eux jusqu'ici. Un trophée qui permettrait aussi aux Kérotes d'embellir une saison quelque peu en dents de scie, Frédéric Nicolas.
En ce mois de jeûne du Ramadan, les fortes températures qui frappent le Caire actuellement n'ont pas découragé les dizaines de milliers de supporters du Zamalek à attendre à jeun pendant des heures sous un soleil de plomb pour se procurer un ticket pour assister à la finale retour de la Coupe de la Confédération qui se jouera à Alexandrie, au stade militaire de Borg El Arab, dans une enceinte quasiment pleine. L'engouement est énorme puisque le Zamalek, qui est pourtant le deuxième club le plus titré d'Afrique, n'a plus remporté de trophée continental depuis 2003. À l'époque, les Chevaliers Blancs du Caire s'étaient adjugés la Supercoupe d'Afrique quelques mois après avoir gagné la Ligue des Champions devant le Raja Casablanca. Pour réaliser l'exploit face à la Renaissance Berkane, les Égyptiens prévoient d'abandonner leur habituel schéma tactique défensif qui a montré ses limites au match aller. C'est pourtant une stratégie qui a porté ses fruits ces derniers mois puisque les hommes de Christian Gross, le coach helvétique du Zamalek, sont devenus très solides derrière. Le Zamalek a l'opportunité de remporter le seul trophée qui lui manque à son riche palmarès. Une victoire galvaniserait les Chevaliers Blancs dans le sprint final en championnat d'Égypte puisque le Zamalek, troisième avec 3 matchs en moins que le leader El Ahli, n'est qu'à 8 points avant un derby du Caire entre les deux équipes qui déterminera l'identité du champion d'Égypte.
Frédéric Nkana, Zamalek Berkane, coup d'envoi demain dimanche 20h, temps universel.
On y reviendra bien sûr dans Mondial Sport, du football de club au football de sélection. Antoine Grenier, Patrice Neveu, officiellement de retour en Afrique, intronisé sélectionneur du Gabon. Le technicien français revient sur le continent quelques mois à peine après son limogeage du Roya de Conakry.
En mars dernier, malgré la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions avec l'équipe guinéenne, Neveu était débarqué. En mars également, le Gabon échouait à se qualifier pour la Coupe d'Afrique en Égypte après un nul contre le Burundi. Et Daniel Cousin, sélectionneur des Panthères, était lui aussi débarqué. Marqué par son échec de 2017 dans sa CAN avec une élimination dès le premier tour et absent de la prochaine Coupe d'Afrique, le Gabon cherche un second souffle. Le choix de la Fegafoot s'est donc porté sur Patrice Neveu, qui a connu ses lettres de noblesse avec la Mauritanie, qu'il avait qualifié pour le CHAN 2014, sa première compétition internationale. Neveu qui aura attendu presque une semaine pour avoir l'aval des autorités gabonaises et qui prend donc la tête des Panthères avec la volonté de relancer, plus que la sélection, l'ensemble du football au Gabon.
Il y a une mission aussi de restructurer, je dirais, redonner un élan au football gabonais, qui, comme tout le monde le pense et comme moi je le pense, qui mérite mieux au niveau de ses performances, mais aussi au niveau du fonctionnement du football local. Donc ça reste un travail de moyen et long terme, mais il faut s'y mettre le plus rapidement possible. Mais évidemment que ça va avec les résultats de l'équipe A.
Ça vous a pas fait peur, quand vous avez postulé, de voir tous vos prédécesseurs avoir toutes ces difficultés avec cette sélection?
Surtout pas. Au contraire, c'est une sélection... Pour moi, je dirais qu'il y a un gros potentiel. Mes prédécesseurs ont fait ce qu'ils devaient faire. Moi, j'ai fait mon analyse depuis un moment, je dirais, du football gabonais. On m'a nommé, à moi de montrer que je vais pouvoir et que je vais donner l'impulsion à ce football. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même des joueurs de qualité qui comportent la globalité, je dirais, de l'effectif A. Et il me semble que aussi au niveau du pays, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un football qui doit bien fonctionner et qui doit rayonner, quoi.
Un pays qui a organisé la CAN à 2 reprises, en 2012 et en 2017, donc un pays qui se doit de revenir au premier plan, surtout une CAN avec autant de pays maintenant.
Oui, tout à fait, inévitablement, c'est vrai que l'objectif, il est clair, il faut absolument, comme d'habitude, en respectant les adversaires, mais il faut absolument qu'on arrive à tout mettre en œuvre pour se qualifier pour 2021, et puis une bonne qualification relancera, je dirais, du football gabonais. Bon, pour ça, j'ai besoin, bien sûr, de toutes les énergies autour de moi, que ce soit bien sûr fédération, État, les joueurs, les supporters et le peuple gabonais afin de créer une belle unité autour de cette équipe.
Quand vous parlez de toutes les énergies, vous espérez avoir un Pierre-Emerick Aubameyang pleinement concerné par cette sélection. On sait que voilà, ça a été très compliqué. Voilà, c'est son histoire pour l'instant avec la sélection.
Je m'inquiète pas trop dans le sens où je pourrais avoir exercé dans les sélections comme le RD Congo ou la Guinée ou même Haïti. Les joueurs, je dirais, qui jouent dans les grands clubs aspirent à logiquement à avoir un fonctionnement bien précis afin de pouvoir être aussi performants. Et on sait que leurs saisons sont de plus en plus chargées. Donc j'espère au plus vite rencontrer Pierre-Emerick Aubameyang et ses collègues, certains qui jouent en Angleterre, d'autres en France, afin de les écouter déjà et puis de leur présenter le projet. Et j'espère qu'ils sont motivés et ça doit être aussi un plaisir aussi de venir en sélection. Mais bon, je peux comprendre qu'il y ait pu y avoir certaines difficultés. Il n'est pas question de rejeter la pierre à qui que ce soit. Pour moi, il est question de prendre tout en compte et d'avancer avec tout le monde. Si bien tout le monde prenne du plaisir dans cette sélection en alliant bien sûr la rigueur, mais aussi le plaisir est synonyme de rigueur et rigueur est synonyme de plaisir.
Est-ce que l'idée est de passer beaucoup de temps au Gabon ou de travailler depuis ici ?
Non, l'idée c'est que je passe beaucoup de temps au Gabon et puis que je prenne suffisamment de temps, dès ma prise de fonction, d'aller rencontrer la plupart des joueurs afin d'échanger rapidement avec eux. Et puis sinon, je résiderai au Gabon comme c'était prévu. J'irai dans l'appel à candidature.
Et de mettre un peu le nez dans le championnat ?
Oui, complètement. Mais bon, ça c'est une casquette que j'ai déjà portée lorsque j'étais en Mauritanie. Donc, un pays qui était le 106e mondial, il a fallu cravacher dur pour faire décoller ce football. Mais c'est passé aussi par le soutien de ma fédération, du président de l'époque et du chef de l'État.
Patrice Neveu, nouveau sélectionneur du Gabon pour 2 ans, avec 2 ans en option en plus, joint par Farid Achache et Cédric de Oliveira.
Merci à eux.
Mondial Sport sur RFI.
Le tennis, événement demain à Paris. Roland-Garros débute. Terre battue et poussière d'étoiles. Porte d'Auteuil, puisque les meilleurs joueurs du monde, les stars, seront au rendez-vous. Bonsoir Eric Mammoth.
Bonsoir Hugo, bonsoir tout le monde.
Les meilleurs et notamment celui qui signe son grand retour, Roger Federer.
Revoilà Roger, 4 ans que l'homme au 101 titres n'a plus disputé Roland-Garros. En 2016, le Suisse blessé au dos avait dû déclarer forfait. Les deux suivantes, il avait choisi de faire l'impasse pour se ménager et privilégier les surfaces plus rapides, à raison, puisque dans l'intervalle, Roger Federer a ajouté 3 couronnes du Grand Chelem à son palmarès pour porter son total à 20. Aujourd'hui, âgé de presque 38 ans et épargné par les blessures, l'actuel numéro 3 mondial a donc choisi de revenir à Paris sans attendre particulière, même si ces 2 tournois de préparation à Madrid puis à Rome se sont plutôt bien passés avec 2 quarts de finale atteints. Sans attente et surtout pour le plaisir, lui qui va disputer son 18e Roland-Garros pour un bilan de 5 finales pour une victoire en 2009. Roger Federer.
Je suis énormément content d'être de retour ici à Paris en bonne santé. Pas forcément le public qui m'a... Il m'a beaucoup manqué. Roland-Garros, ça a commencé l'aventure ici à 20 ans, la victoire ici à 10 ans, une des plus beaux victoires de ma vie. Je ne sais pas exactement à quoi m'attendre, honnêtement, au niveau des résultats, mais c'est sympa aussi. C'était la même chose un peu en Australie en 2017, quand je n'avais pas d'attente. Je suis juste content d'être de retour en bonne santé. Et c'est un peu la même chose. Je sais que mon premier adversaire, il sait jouer sur terre. Il a joué déjà énormément de matchs sur la surface cette année. Et ce n'est pas simple du tout. Alors, c'est vraiment match par match. Jusqu'à maintenant, la préparation s'est très bien passée à Rome et à Madrid aussi. Le corps, il a bien réagi sur la surface que j'ai pu jouer dessus depuis des années. Alors, je suis vraiment satisfait de la situation où je me retrouve. Alors, je suis prêt pour y commencer.
Et son premier adversaire dès demain, dimanche, sera effectivement un spécialiste de la terre battue, l'Italien Lorenzo Sonego, 73e mondial qui vient de se révéler en atteignant les quarts de finale du Masters 1000 de Monte Carlo.
Alors Roger Federer sera donc l'attraction numéro 1 de ce Roland-Garros 2019. Il ne sera pas forcément le favori pour autant. 2 autres joueurs, toujours les mêmes, devraient se disputer le titre, Eric.
Encore et toujours, Rafael Nadal et Novak Djokovic sont les deux favoris pour soulever le trophée le 9 juin prochain. Ils viennent de s'affronter en finale à Rome, Rafael Nadal s'imposant 3-7 pour décrocher curieusement son premier titre sur terre battue cette année. Jusque-là, il avait échoué en demi-finale et à Monte-Carlo, et à Barcelone et à Madrid, une vraie rareté. On commençait d'ailleurs à parler de déclin pour l'Espagnol de 32 ans, sérieusement tracassé par les blessures ces derniers temps. Mais à Rome, Rafael Nadal est redevenu l'ogre de l'ocre, efface sans tous les doutes, ce qui fait dire à l'ancien joueur français Sébastien Grosjean que le Majorquin est bien encore une fois le favori numéro 1 de cette édition 2019.
Pour moi, c'est quand même le favori numéro 1 du tournoi. Il a été impressionnant toute la semaine à Rome jusqu'à la finale, même s'il perd un set sur Novak, il aurait pu s'imposer en 2-7, même si Novak était un peu à court physiquement par rapport à sa semaine compliquée. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est à peu près le même ordre que l'an passé avec Novak, avec Dominic Thiem également, qui a bien joué à Barcelone. Donc voilà, pour moi, ça reste Rafa la tête de série.
Rafael Nadal qui pourrait retrouver Roger Federer en demi-finale, l'Espagnol en quête de son 12e titre à Roland-Garros. Quant à Novak Djokovic, il voudra réaliser la passe de 4, lui qui a remporté les 3 derniers trophées majeurs. Un grand chelem sur 2 saisons qu'il avait déjà signé il y a 3 ans.
Alors Eric Mabrut, on voit que les trentenaires sont toujours au rendez-vous, Nadal, Djokovic, Federer, mais il y a derrière des jeunes qui poussent.
On sent de plus en plus la relève poindre le bout de son nez avec en tête de gondole le grec Stefanos Tsitsipas, 20 ans, demi-finaliste à l'Open d'Australie en janvier, déjà 8e mondial. Mais il y a aussi le Canadien d'origine togolaise, Félix Auger-Aliassime, 18 ans, et d'autres que l'on connaît un petit peu plus, comme l'Allemand Alexander Zverev et l'Autrichien Dominic Thiem. Autant d'outsiders potentiels pour le directeur du tournoi, Guy Forget.
Tsitsipas a été très impressionnant au tournoi de Madrid, battant Rafael Nadal. Dominic Thiem doit se dire qu'il est peut-être enfin prêt pour s'imposer ici après la finale l'année dernière. Félix Auger-Aliassime est très jeune, encore peut-être un petit peu tendre, mais je le vois très vite être très bon et monter très haut. Et puis il y en a beaucoup d'autres jeunes, je ne vais pas tous les citer. Zverev qui a un petit peu disparu des écrans radars, mais à un moment donné il est trop fort. Justement, pour rester dans l'ombre de ces garçons-là, il va avoir probablement une réaction d'orgueil de sa part. On peut assister à des tas de choses exceptionnelles pendant cette édition de ce tournoi 2019.
Le directeur de Roland-Garros, Guy Forget. Eric, et les Français dans tout ça ?
L'an dernier avait été un fiasco à Roland-Garros avec aucun tricolore en deuxième semaine. Pas sûr que cela soit mieux en 2019 au vu des récents résultats enregistrés sur terre battue. Mais pour l'ancien joueur, aujourd'hui directeur du haut niveau à la Fédération, Thierry Champion, il y en a quand même deux qui pourraient tirer leur épingle du jeu, Gaël Monfils et Lucas Pouille.
Il n'y a pas eu de résultats très probants sur terre battue ces derniers temps, en tout cas pour nos top joueurs. Il y a eu quelques bons matchs, mais pas de quoi se dire j'arrive à Roland avec une grosse confiance. Mais voilà, Gaël sur terre, bien sûr, mais même Lucas, s'il n'a pas très bien joué ces derniers temps, en tout cas sur terre, il avait fait l'effort d'aller jouer un challenger, c'était à Bordeaux pour gagner des matchs, mais ça reste un grand chelem, des matchs en 5-7. Je crois que lui va surtout se servir de son expérience de l'Australian Open. Quand il est arrivé à l'Australie, il n'a pas non plus un ratio très positif, pas une grosse confiance. Et finalement, une fois qu'on passe les deux premiers tours parce qu'ils sont tête de série, il faut les passer. Après, le tableau peut s'ouvrir et puis la confiance revient. Donc Gaël, oui, parce que c'est celui qui, historiquement, a déjà une demi, plusieurs quarts. Et on sait qu'il peut tenir à la distance par rapport à son jeu qui s'adapte très bien à terre battue. Mais il y en a d'autres derrière.
D'autres derrière, bon, bah pas tant que ça, car les Tsonga, Simon, Chardy et Gasquet n'ont pas beaucoup gagné dernièrement. Seul Benoît Paire, en fait, vient de briller cette semaine à Lyon.
Oui, il a même gagné le tournoi, hein, finale remportée ce samedi, face à Félix Auger-Aliassime, le Canadien dont vous parliez tout à l'heure. Merci Eric Mabrut, rendez-vous demain dans Mondial Sport du basket pour refermer cette émission. Antoine Grenier, la nouvelle formule de la Coupe d'Afrique des clubs connaîtra demain son tout premier vainqueur.
L'Africa Basket League, c'est son nouveau nom qui récompensera alors soit les Marocains de l'AS Salé, vainqueurs de la Coupe d'Afrique l'an passé, soit le Primero de Agosto, Salé tenant de cette Coupe d'Afrique, invaincu jusque-là dans cette édition, tout comme son adversaire de dimanche soir. Les Angolais auront en plus le soutien de leur public, cette finale se disputant à Luanda. Le match pour la troisième place mettra aux prises les Tunisiens de la JSK Rouen et les Égyptiens de Smoura.
Merci Antoine Grenier, merci Valentin Vanner, merci Laurent Philippot. Mondial Sport revient demain. En attendant, très bonne soirée sur RFI.